Les rendez-vous santé d'Africa Radio, la prévention, en partenariat avec Santé Publique France.
En ce jeudi 21 novembre, nous parlons des différents outils de contraception à notre disposition en France avec nos invités. Catherine Joannet est sage-femme au centre de planification de la Goutte d'Or. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être avec nous en direct sur le plateau d'Africa Radio. Et au téléphone d'Africa Radio, Barbara Marofonet, elle est médecin gynécologue obstétricienne maternité à l'hôpital Lariboisière. Elle est docteure en santé publique et elle a réalisé une thèse sur les pratiques contraceptives des femmes originaires d'Afrique subsaharienne en France. Merci également de vous être rendu disponible au téléphone de la radio africaine. Alors la contraception, c'est l'ensemble des méthodes qui permettent d'éviter une grossesse. Il en existe de nombreuses. Alors comment choisir celle qui nous convient le mieux? Alors tout dépend de la situation amoureuse, familiale, professionnelle et de l'état de santé dans lequel on se trouve. Alors une contraception ne se choisit pas de la même manière si l'on est adolescente, jeune mère ou si l'on approche de la ménopause. À chaque âge, à chaque type de sexualité, sa stratégie, le choix doit permettre le meilleur compromis possible entre efficacité, sécurité et simplicité. Les moyens de contraception sont nombreux et concernent à la fois les hommes et les femmes. C'est le sujet de notre émission. Alors tout d'abord, mesdames et peut-être vous, Catherine Joannet, quels sont les principaux outils de contraception que l'on utilise en France? Bonjour, bienvenue.
Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Oui, donc effectivement, ce que vous disiez sur le choix, grand nombre de choix qu'on a maintenant en manière de contraception et sur la possibilité pour les femmes de choisir, et la meilleure étant celle que la femme peut choisir étant bien informée. Donc si on essaie de faire un petit tour, il y a les contraceptions qu'on connaît tous depuis longtemps, les contraceptions orales, ouais, comme la pilule, hein, ouais, ça c'est une des premières, les contraceptions qui font partie des contraceptions hormonales. Maintenant, dans les hormonales, on a aussi des nouvelles, le patch qui se colle sur la peau, ouais, l'anneau qui va se poser au fond du vagin. Donc déjà, on voit un peu, est-ce qu'on peut mettre les doigts dans le vagin? Ça fait partie des choses qu'on commence à discuter avec les femmes.
Ouais.
Les dispositifs intra-utérins, avec ou sans hormones, on avait aussi... une émission là-dessus, je crois.
Complètement.
Ouais, voilà. L'implant contraceptif qu'on va pouvoir glisser sur la peau. Il y a aussi les injections qu'on peut faire en intramusculaire.
Oui.
J'ai pas la liste devant les yeux, donc il faut que je... Évidemment, le préservatif, comment ne pas parler du préservatif, qui est le meilleur méant qui protège le sol des infections et de la contraception, donc interne et externe, aussi à proposer au couple.
Oui.
Alors, qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Sûrement.
Alors, peut-être que Barbara, oui, Marofonet pourra nous le dire. Allô, vous nous entendez?
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Bonjour.
Donc, vous les avez, je pense, tous assez bien cités. Hein, il reste bien sûr la méthode chirurgicale, qui est une contraception un peu particulière, puisqu'elle est définitive, dans le sens où, une fois qu'on a ligaturé les trompes, effectivement, il est plus difficile d'avoir une grossesse, également pour la vasectomie. Donc, c'est une contraception qui est définitive, comme le terme l'indique. En France, elle est assez peu utilisée,
oui,
de manière générale, alors qu'aux États-Unis, par exemple, c'est beaucoup plus utilisé. Ça me permet de revenir sur un point, c'est-à-dire de quelle manière également notre pays a des habitudes contraceptives.
Oui. Oui.
Et c'est vrai que dans la question « quelle est la contraception la plus utilisée en France ?», ça reste la pilule.
Oui.
Bien que les choses commencent à changer, et je trouve qu'en pratique, et c'est, les données le montrent aussi, il y a de plus en plus d'utilisation du dispositif intra-utérin.
Oui.
Et donc, non seulement il y a beaucoup de méthodes, mais je pense aussi qu'on est en train d'élargir l'offre réelle.
Alors justement, est-ce qu'on ne s'y perd pas? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'offres d'outils de contraception, selon vous, Barbara Marofonet?
Oh non, trop pas du tout. Surtout que la vie contraceptive, elle est longue.
Ouais.
Il faut savoir que l'intérêt d'une contraception peut commencer dès les premiers rapports et peut du coup aller jusqu'à la fin de la vie reproductive. On peut dire autour de 45-50 ans. Peut-être c'est un petit peu avant pour certaines femmes, peut-être pour d'autres un petit peu après. Donc on est en train de parler quasiment de 30 ans de besoins contraceptifs, avec des pauses, bien sûr, des moments où on n'en veut pas, on en a moins besoin,
oui,
etc. Donc je pense que sur 30 ans, avoir 4-5 méthodes à disposition, c'est pas beaucoup. Mais c'est déjà quand même pas mal. Il y a autre chose qui va changer un peu dans le temps, c'est la contraception masculine, parce qu'on en parle peu, mais je pense que les messieurs bientôt...
Au niveau de la recherche, ça avance.
au niveau de la recherche, ça avance. Je pense qu'au niveau du souhait également des hommes de pouvoir eux aussi gérer leur contraception, les choses vont probablement changer. On est en train d'essayer de trouver les méthodes qui, comme pour les femmes, auraient le plus d'effets bénéfiques sans trop d'effets secondaires.
Ouais.
Donc, je crois que dans l'arsenal des couples, je l'espère, il y aura également la contraception masculine.
Alors, vous justement, Barbara Noirofoné, vous avez réalisé une thèse sur les pratiques contraceptives des femmes originaires d'Afrique subsaharienne en France. Alors, quelles sont les particularités que vous avez pu mettre en lumière ? Est-ce qu'elles utilisent les mêmes contraceptifs que les Françaises ?
Alors déjà, première information très importante qu'on a pu avoir grâce à la thèse, puisqu'on avait assez peu d'informations réelles sur ce qui se passait sur le terrain, les femmes africaines utilisent une contraception.
Oui.
Elles ont un petit peu plus d'enfants que les femmes nées en France, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'utilisent pas de contraception. Donc très largement, les méthodes médicales, c'est-à-dire la pilule, le stérilet, l'implant, sont utilisées quasiment au même niveau que les autres femmes qui habitent sur le territoire.
D'accord.
Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle, c'est-à-dire que même si elles viennent de pays où la contraception est un peu moins utilisée, une fois en France, finalement, le temps venant, les enfants venant, la contraception telle qu'elle est utilisée en France disponible. Donc voilà. Après, il y a quand même certaines particularités.
Oui.
Je pense qu'il faut qu'on s'interroge. Il y a une utilisation nettement plus importante de l'implant. Je dirais que les femmes africaines qui ont moins de 30 ans sont environ 1 sur 3 à déclarer l'implant, contre 7% en population générale. Donc
d'accord.
On voit bien qu'il se passe des choses quant au type de méthode. Il est difficile de savoir jusqu'à quel point c'est un choix personnel de ces femmes où il y a une ambiance soit hospitalière, soit dans les centres de planification à plutôt favoriser la prescription de cette méthode. Tout ça, ça reste encore inconnu. Voilà.
Alors peut-être que vous voulez faire une petite remarque, Catherine Desjoannet.
Oui, tout à fait. Je trouve tout à fait que les femmes africaines, dans les personnes qui sont au centre de planification, sont très intéressées par la contraception. Il y a un réel besoin d'informations claires, en fait. Effectivement, c'est peut-être aussi ce qui peut revenir sur ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a toutes les représentations et des professionnels et des femmes autour de la contraception. Et du coup, il y a un vrai temps à prendre important pour toute femme, d'ailleurs. Hein, c'est pas que pour expliquer les différentes méthodes, pour que le choix... comme vous disiez, soit effectivement vraiment adapté en fonction des différentes périodes de vie et des sexualités, etc., etc. On voit effectivement des poses d'implants qui sont enlevées après très rapidement dans les 3, 4 à 5 mois parce que peut-être nous, professionnels de santé, prenons pas le temps de voir aussi quelles sont les connaissances des hommes et des femmes. Finalement, on part de nous, professionnels, mais est-ce qu'on peut dire qu'est-ce que vous en savez, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'est-ce que vous en avez entendu dire pour partir des personnes, de leurs connaissances, de leurs choix, de leur sexualité, etc. Je pense que c'est ça un petit peu aussi l'enjeu, parce que c'est quand même une histoire de vie intime, de vie privée, de vie de couple aussi.
De vie de couple,
Et donc, c'est là vraiment la
Alors justement, on disait tout à l'heure que, est-ce que vous venez de rappeler à l'instant à Catherine Joannet que la contraception concerne les femmes, mais aussi les hommes. Alors Barbara Marofoné, est-ce que justement le dialogue passe entre les hommes et les femmes dans nos communautés d'Afrique subsaharienne ?
Je crois qu'on a quand même peu d'informations, disons, épidémiologiques, c'est-à-dire vraiment qui puissent représenter l'ensemble de la population. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les couples ? Il y a une discussion, certes, elle peut se faire de manière orale, elle peut se faire par sous-entendu. Donc, c'est très difficile pour moi de vraiment donner des chiffres, mais certainement qu'il y a une discussion. Voilà. il faut se mettre d'accord sur le nombre d'enfants, il faut se mettre d'accord sur le moment où on a envie d'avoir les enfants. Et tout ça, je crois que les couples, ils discutent quand même, ils sont pas forcément d'accord. La contraception étant pour l'instant essentiellement féminine, finalement, c'est la femme qui va être au centre de la décision finale, qui peut parfois être propre, qui peut parfois être subie, à la fois par le conjoint, mais peut-être aussi par les équipes soignantes. Et là, je pense que nous, professionnels, il faut vraiment qu'on fasse attention. Et donc, l'idée, je pense que c'est que, finalement, ce soit la personne qui prend la contraception, qui soit celle qui puisse avoir le dernier mot, puisque les effets vont quand même être sur la personne qui prend le médicament. Et ça, je ne suis pas certaine que pour l'ensemble des femmes, ce soit le cas.
Oui.
Il est difficile parfois, quand on prescrit une contraception, de savoir comment la personne va la tolérer.
Oui.
Parce qu'on dit, bon, l'implant fait saigner, mais pour certaines filles, ça ne fait pas saigner. Pour certaines femmes, ça ne fait pas saigner. C'est une contraception extraordinaire. Pour d'autres, c'est très mauvais. Donc, je pense aussi que un des messages importants, c'est la possibilité de changer de contraception, c'est la possibilité de revenir sur le choix et nous d'être à la disposition de ces femmes pour recueillir les effets qui ne sont pas bons pour les couples.
Alors justement, Catherine Jeannet, quelles sont les méthodes les plus efficaces? Quels sont les inconvénients, les avantages des uns et des autres? Bon, on ne va pas tous les lister, mais les méthodes les plus utilisées, par exemple la pilule, l'implant et ce qu'on appelait avant le...
Donc on va dire ce qu'on veut. Je pense qu'on est d'accord avec Barbara. La plus efficace, c'est celle qui va être la mieux adaptée à la femme,
totalement,
au couple et dans cette période de vie. Et c'est vraiment là que les choses agissent, parce que finalement, une pilule qu'on n'oublie pas, elle marche très très bien, sauf qu'une pilule qu'on doit prendre en cachette. Parce que pour les jeunes à la maison, c'est pas possible, ou parce qu'il y a un conjoint qui, dans cette période de vie, n'est pas tout à fait d'accord, eh ben, va être beaucoup moins efficace. Donc la discussion est vraiment là. Ce qu'on peut voir quand même, c'est les contraceptions de longue durée qui remontent un petit peu. Effectivement, avant la pilule, c'était la méthode de contraception qui était de première intention la plus utilisée. Effectivement, grâce à l'implant et au dispositif intra-utérin, qui effectivement augmente en France, cet aspect culturel aussi chez nous. Et ces contraceptions, dans la mesure où il n'y a pas cet aspect quotidien et du coup il y a peut-être moins d'oubli, ont une efficacité tout à fait intéressante, parce que c'est sur du long terme et on n'a pas à y penser tous les jours, etc. Ça fait... Et donc là, on trouve des efficacités, pour peu que le choix, quand on n'oublie pas ça, c'est notre leitmotiv du jour, je crois, soit celui de la femme ou du couple, sont des contraceptions qui sont très intéressantes et qui sont en augmentation, parce qu'on la pose en l'oubli.
Peut-être que vous voulez rajouter quelque chose, Barbara Maroffoné?
Je suis tout à fait d'accord avec ma collègue. Rien à rajouter, c'est exactement ça.
Alors, justement, on va aborder à présent le cas des jeunes filles et du dialogue dans les familles, par exemple. Alors, est-ce qu'il y a suffisamment de dialogue dans nos familles originaires d'Afrique subsaharienne? Y a-t-il une impossibilité pour de nombreuses familles d'aborder le sujet des règles, par exemple, avec les jeunes filles, du corps qui change? Est-ce qu'on parle suffisamment de sexualité et de contraception avec nos jeunes filles? Alors, qu'en est-il, Barbara Maroffoné?
Ah bon, ça c'est vraiment une vaste question. C'est difficile de répondre par oui ou par non. Je pense qu'il y a autant de gens que de familles, que de situations. Certainement, et c'est vrai en France, je pense pour les femmes africaines, mais aussi pour les femmes pour les familles non africaines, c'est difficile d'aborder la question de la contraception, de la première contraception, parce que bon, la sexualité, elle arrive parfois à un âge où on n'est pas forcément en bonne entente avec ses parents, où on a aussi besoin, on se construit son intimité, on ne sait pas non plus, on découvre la sexualité à la fois le risque de grossesse. Donc, je pense que c'est un moment qui est difficile, qui n'est pas forcément propice à toutes les pratiques de prévention, et à la fois, c'est un moment crucial, parce que je pense que nos ados, que nos jeunes femmes sont avides d'informations à cette période-là et sont capables d'entendre beaucoup plus de choses que ce qu'on ne pense, que ce qu'on ne croit. Est-ce que c'est un large débat? Est-ce que la cette question doit avoir lieu dans les collèges? Est-ce que cette question doit avoir lieu dans les lycées?
Ouais.
Est-ce que la question de l'information doit se faire au sein de la famille? Voilà, tout ça, je pense que c'est assez complexe et je dirais qu'il faut qu'il y ait le plus d'informations possible dans le plus d'endroits,
ouais,
pour justement arriver à capter ces jeunes là où ils puissent entendre le message. Alors, pour les parents, je dirais, ça ne sert à rien de faire l'autruche, de ne pas vouloir en parler, puisque c'est une situation qui a probablement lieu le début de la sexualité, ou en tout cas, le risque de grossesse, il pourrait arriver assez tôt. Donc, il vaut mieux l'anticiper, le ouais, discuter. Donc ça, c'est un message qui est valable, qui sera aussi valable pour moi. Je sais que ce n'est pas facile. Et peut-être que l'une des solutions, ce serait aussi de former les parents et de les informer dans d'autres espaces à comment aborder cette sexualité.
Ouais.
Je vois qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui sont faits, par exemple, sur l'abord de la sexualité chez les petits-enfants, comment est-ce qu'on va en parler. Peut-être aussi que c'est important d'essayer de faire le message pour les parents, voilà, à l'âge de l'adolescence, comment ça se passe, comment on peut aider nos jeunes, finalement, à moins s'exposer,
ouais,
à vivre aussi leur sexualité de manière un petit peu plus simple, entre guillemets.
Mm-hmm.
Et voilà, qu'est-ce qui a vraiment lieu dans les familles? C'est très difficile de répondre.
Alors, mais
je pense
oui,
que quand même,
terminé.
En tout cas... Oui, pardon. Non, je passe la parole.
Alors, Catherine Jeunet, justement, est-ce qu'elles poussent facilement les portes du centre de planification? Est-ce qu'elles viennent vous voir, ces jeunes filles, facilement? Est-ce que c'est compliqué? Racontez-nous un petit peu.
Voilà, effectivement, ce qui va avec, c'est la connaissance des lieux ressources,
ouais,
qui est très importante, effectivement, parce que c'est vrai qu'au collège, il y a les infos sur les méthodes de contraception. C'est en quatrième. Ils ont 13-14 ans, en France, en tout cas. Hein, c'est... Alors, c'est vrai que ça leur permet de savoir que ça existe, ça donne une information large, mais effectivement, on peut pas parler contraception sans parler sexualité. Quels que soient les jeunes, il y a toujours ce moment où on n'ose pas en parler à ses parents, parce que voilà, c'est tout ce que disait ma collègue, c'est l'intimité, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on en parle pas. Donc, je pense que, effectivement, en parler dans les familles en amont, en mettant, souvent on peut trouver des documents qu'on laisse traîner dans les chambres des jeunes, enfin, il y a des documents qui sont très bien faits, hein,
ouais,
sur la sexualité, etc. Et la connaissance des lieux ressources est quand même un point qui est important,
ouais,
parce que ce qu'on voit, c'est que les jeunes ne savent pas où aller.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Donc maintenant, ils savent à peu près, hein, si on dit préservatif pilule, alors même malgré tout ce qu'on a dit avant, toutes les deux, tout le monde sait, à quelque chose près. Mais où, quand, comment, à quel moment dans la sexualité, est-ce qu'on en parle avec son conjoint, est-ce qu'on n'en parle pas, et où aller, ça, c'est, je pense, quelque chose qu'on doit pouvoir développer encore aujourd'hui, en France et ailleurs, j'imagine, parce qu'ils ne savent pas où aller. Donc nous... Notre manière de travailler ça, c'est d'avoir des partenariats, évidemment, avec les établissements scolaires. Et en objectif premier, c'est que les jeunes se déplacent dans nos centres pour les connaître. Après, c'est le grand, grand objectif, à mon sens, premier.
Et quelles sont leurs préoccupations?
J'ai une petite, oui, un petit mea culpa. J'ai un petit très grand mea culpa, parce que je pense qu'on a oublié de parler de quelque chose qui est fondamental, c'est la contraception d'urgence.
Ouais.
Oui.
Et quand on a cité les méthodes, on n'en a pas parlé.
Absolument.
Je fais mon mea culpa parce que c'est vrai que moi-même, j'y pense assez peu. Je la vois comme quelque chose d'exceptionnel, alors que maintenant, toutes les recommandations vont dans le sens de la proposer, voire même d'anticiper.
Complètement.
Elle est gratuite pour les mineurs, pour les gens non mineurs. Si on fait une ordonnance d'aval... d'amont, pardon, vous voyez, le niveau de d'amont, on peut prévenir et donc être remboursé. Donc je pense que c'est très important d'y penser pour les jeunes, puisqu'elle est quand même très efficace. Et pour des situations sexuelles qui sont parfois des rapports un peu ponctuels, qui sont pas d'une sexualité forcément quotidienne, etc., il est parfois difficile d'envisager une contraception tous les jours. Et donc ce recours doit vraiment passer dans nos esprits. Donc grand mea culpa.
Allez-y, Catherine Jeunet.
Si je m'autorise, on ajoute le dispositif intra-utérin en contraception
aussi
d'urgence, qui est moins accessible, hein, parce que l'intérêt de ce dont vous parlez...
Et c'est moins connu aussi, c'est
voilà,
moins connu.
Barbara, ce que vous parlez, c'est que ce qui est très pratique, c'est hop, pharmacie, il y a des pharmacies
partout. Oui, parce que c'est vrai que voilà, le dispositif, même si c'est très bien, il faut trouver le pratique.
Exactement.
Il faut avoir envie de voilà, se faire poser, etc. Alors,
voilà, tout à fait, c'est juste, puisqu'effectivement, on fait notre mea culpa, on le fait jusqu'au bout.
Alors, juste...
Très bien, bien vu, bien vu.
Catherine Jeunet, quelles sont les préoccupations de ces jeunes filles lorsqu'elles viennent vous voir? De quoi sont... Qu'est-ce qu'elles recherchent? Qu'est-ce qu'elles veulent? Qu'est-ce qu'elles vous disent? disent comment elles réussissent à briser la glace et à parler de contraception.
Alors, souvent, elles viennent un peu trop tard.
Ouais.
C'est-à-dire que souvent, il y a déjà eu peut-être des relations sexuelles pas forcément bien protégées.
Ouais.
C'est quand même une proportion qui est assez importante, parce que justement, on ne savait pas qui en parler, on ne savait pas où aller, et on ne connaissait pas les lieux ressources. Une fois que la porte est passée, et d'où l'intérêt, nous, de les faire venir au centre, parce que du coup, là, on peut les voir beaucoup plus rapidement et pas trop tard.
Ouais.
Et ça marche très bien, on le voit. Hein, les collèges et les lycées qui sont venus, les jeunes reviennent beaucoup plus tôt. Il y a quand même aussi beaucoup de questions sur, finalement, la vie sexuelle et la vie amoureuse.
D'accord.
C'est-à-dire, est-ce que ça, c'est comment ça se passe avec mon copain ? Est-ce que ça, il me demande ça, j'ai pas forcément envie, ou elle ? Donc, il y a beaucoup de... Comme ils disent... en fait, on peut parler de vie sentimentale. Et c'est aussi un peu ça.
Ouais.
Et puis après, évidemment, ils ont besoin d'avoir des informations vraiment, je pense, le plus clair possible, au-delà des représentations. Parce que, bien sûr, le bouche à oreille marche très bien.
Ouais.
Et donc, on m'a dit que, et ma copine, et ma copine, et ma copine, et ma copine, et Internet, etc.
Ouais.
Et donc, ils sont très contents de pouvoir parler au-delà de on m'a dit que, et ma copine, et Internet a dit que, évidemment, Internet. Il y a des sites très bien. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse... donner peut-être...
Choisir sa contraception pour y faire, le site du planning familial aussi.
Oui, absolument.
Alors, ne pas hésiter, parce qu'il reste juste quelques minutes, à se renseigner auprès des centres de planification et d'éducation familiale. C'est anonyme et gratuit pour les mineurs. La consultation également du centre de gynécologie d'un hôpital, c'est remboursé par la Sécurité sociale. Et aujourd'hui, la contraception orale est gratuite pour les mineurs. Il ne nécessite aucune autorisation parentale. C'est important également de le rappeler.
Petit ajout.
Allez-y.
Pour les mineurs, les personnes sans couverture sociale, ce qui est quand même très important. Les étudiants ont des ruptures de droits.
Oui.
Et du coup, bah, y a des ruptures de contraception parce qu'il y a des ruptures de droit. Et donc, toute personne qui est sans couverture sociale et qui a besoin d'un accès à la contraception peut venir dans un centre de planification. Et toute personne qui a besoin d'une confidentialité aussi, on sait ce que c'est les violences dans les couples. J'ai besoin de venir et mon mari ne doit pas être au courant, il ne doit pas y avoir de... Donc, il y a tout cet aspect-là.
Oui.
Donc, mineur, personne sans sécurité sociale, rupture de droit et... ben voilà, s'il y a des périodes de vie où on a besoin de cette confidentialité totale,
oui.
Les centres de planification familiale sont là pour ça.
N'hésitez pas à aller sur Internet pour savoir celui qui est le plus près de chez vous. Alors, on va faire une petite conclusion. Je vais vous laisser dire un tout dernier mot à Barbara Marofoné. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette émission ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour terminer ?
Ben déjà, de vous féliciter parce que je trouve que la contraception, c'est quand même très bien qu'on puisse en parler partout,
oui.
Aussi à la radio, qu'on puisse aussi faire des émissions spécifiques. Donc, je félicite Radio Africa parce que c'est la troisième fois que je suis invitée. Je suis ravie.
Ah, merci.
Aussi de pouvoir partager un peu les informations que nous disposons sur les particularités contraceptives, mais également les similitudes, même pour les femmes qui viennent d'arriver. Donc, tout ça, je trouve que c'est très bien que nous, professionnels, nous soyons à l'écoute, que vous mettiez le sujet sur le tapis. Et donc voilà. Merci encore pour votre invitation.
Merci à vous. Je rappelle que vous êtes médecin gynécologue, obstétricienne maternité à l'hôpital Larry Boisère. Vous êtes aussi docteur en santé publique. Vous avez réalisé une thèse sur les pratiques contraceptives des femmes originaires d'Afrique subsaharienne en France. Merci beaucoup, docteur, de vous être rendu disponible. On vous souhaite une très bonne journée. Je vais vous laisser dire un tout dernier mot, le mot de la fin. Catherine Joannet, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour terminer ? Peut-être quand on
conclut. Je vais suivre ma chronique.
Oui.
C'est toujours le plaisir de venir vous retrouver à Radio Africa.
Un plaisir.
Et puis, oui, bien sûr, informer. Je crois que ça, c'est vraiment... Et moi, je rajouterais... on fera une émission sur les lieux ressources.
Pourquoi pas. Merci d'être venue sur le plateau d'Africa.
À bientôt à tous.
Vous êtes sage-femme au centre de planification de la Côte d'Or à Paris. Merci à toutes les deux dans un instant.